de Courtoisie. Bonsoir, bienvenue dans ce libre journal des amitiés françaises. Comme à l'habitude, deux parties. Nous recevons tout d'abord maintenant, donc à 18h, François-Guillaume Lorrain, qui est journaliste pour la publication aux éditions Tempus, donc poche de deux de ses ouvrages rassemblés sous le titre « Ces lieux qui ont fait la France ». Et puis à 19h30, nous recevons là aussi, pour des lieux qui ont fait la France, puisque nous recevons Reynald Séché, qui est historien. Comme vous le savez tous, si vous le connaissez bien, Radio Courtoisie, c'est un spécialiste des guerres de Vendée. Et nous le recevons pour aussi un guide de voyage, de découverte des guerres de Vendée à travers plusieurs itinéraires. Il vient nous parler de ce guide ce soir. Je rappelle que Laurent est au standard, qu'il sera très heureux de prendre tous vos messages, vos questions que nous proposerons à nos invités. Vous pouvez le faire par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr ou par téléphone 01 46 51 00 85 01 46 51 00 85. Nous abordons maintenant la première partie de ces émissions. Nous savons tous que le diable se cache dans les détails et la petite histoire dans la grande histoire. En effet, ce sont les hommes qui font l'histoire et bien souvent, ce sont les petits. Il n'y a rien de péjoratif, bien sûr, à ce terme petit. Ce sont les petits qui donnent la victoire ou provoquent les défaites. Pensons ainsi à ce qui s'est passé à Varennes. Quelle aurait été l'issue de la Révolution française et l'avenir de la monarchie si Louis XVI avait été plus conscient des dangers de sa fuite et de la nécessité d'aller vite, d'avancer rapidement vers la frontière et surtout s'il n'avait pas été reconnu par un homme, un seul, Drouet, je crois, est son nom. Et que reste-t-il d'ailleurs à Varennes, quand on va à Varennes, que reste-t-il de cette histoire, les lieux qui l'ont porté, comment ce village et ses habitants témoignent-ils maintenant de l'événement dramatique d'ailleurs qui s'est produit. Est-ce que justement cette histoire, cette petite histoire, est-ce que c'est important de la connaître? Est-ce que c'est important pour notre culture? Et c'est important aussi pour comprendre la plus grande histoire. Eh bien, ce soir, chers auditeurs, c'est le thème de notre émission. Nous avons le plaisir, en effet, d'accueillir à cette émission un spécialiste de cette petite histoire. Là encore, il n'a rien de péjoratif au terme de petite histoire. Grâce lui soit rendue, il s'agit de François-Guillaume Lorrain, justement, qui ressuscite, ce type d'histoire, celle des lieux et celle des gens, telle qu'il l'a fait d'ailleurs vivre dans le chapitre qu'il consacre dans son recueil, dans son livre, à Varennes. Et à l'exemple aussi de ce qu'il pratique avec passion et beaucoup de brio dans ses livres, justement, intitulés « Ces lieux qui ont fait la France », où il raconte justement notre histoire à travers les lieux, célèbres ou oubliés d'ailleurs, y mêlant des récits personnels, des rencontres, mais aussi, bien entendu, son éclairage historique. Il a écrit deux ouvrages justement sur ces lieux qui ont fait la France. Et ce soir, nous l'accueillons parce qu'il vient de les réunir dans un seul ouvrage de poche, très économique. Il y a quasiment 800 pages de cette petite histoire, celle des lieux et celle des gens, tout en y ajoutant trois textes inédits dont, bien sûr, nous allons parler ce soir. Alors cet ouvrage, c'est le titre identique aux ouvrages précédents, ce recueil, ces lieux qui ont fait la France, donc c'est aux éditions Tempus, et nous avons le plaisir de recevoir François-Guillaume Lorrain ce soir. Alors bien sûr, nous allons discuter avec lui de la manière dont il travaille ces thèmes qu'il recueille donc dans tous ces chapitres, et puis nous aborderons en fonction du temps qu'il nous restera de trois exemples particuliers tirés de ce livre. Il y aura un exemple sur les lieux de la réconciliation franco-allemande avec une figure magnifique qui est celle de l'abbé Stock, que l'on retrouve dans un lieu qui est méconnu, qui est le fameux séminaire des Barbelés, à côté de Chartres. Et puis il y a aussi un lieu, la salle du Jeu de Paume, lui aussi assez méconnu, parce que c'est sûr que cette salle est à l'ombre du grand château de Versailles. Versailles est plus connu pour être une ville royale, moins connu pour être aussi un de ces lieux qui ont fait la Révolution. Et la salle du Jeu de Paume a connu en effet un épisode important de cette Révolution. Et nous parlerons aussi de la fameuse route Napoléon que François-Guillaume Laurin a parcouru pour nous, et a aussi rencontré un certain nombre de personnes. Et si nous avons le temps, nous évoquerons, pour le chapitre littéraire, Marcel Proust, à travers ce village de la Beauce, il y est Combray. Et puis, toujours aussi, si le temps qui nous le permet, eh bien, nous évoquerons les frères Montgolfier. L'aventure des frères Montgolfier, pardon, qui est une véritable aventure industrielle, qui dépasse en fait la simple aventure du premier vol. Alors donc, vous avez compris, chers auditeurs, nous recevons François-Guillaume Laurin pour évoquer tout cela avec lui ce soir, l'importance de la petite histoire, la manière dont il l'écrit, et ses différents exemples sortis tirés de ce livre passionnant, « Ces lieux qui ont fait la France ». Aux éditions Tempus. François-Guillaume Laurin, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes un ancien élève de l'École Normale Supérieure. Vous êtes agrégé de lettres modernes. Vous êtes rédacteur en chef des pages histoire de l'hebdomadaire Le Point. Vous avez écrit de nombreux livres, pour lesquels d'ailleurs certains d'entre eux, nous avions eu le plaisir de vous recevoir. Je rappelle le tout dernier, En roue libre, aux éditions du Cerf, ça c'était l'an dernier. C'est sur votre passion pour le cyclisme appliqué au Tour de France. Vous avez aussi publié, en effet, ce livre, Il fallait bien les aider quand les justes sauvaient les juifs en France, ça c'est aux éditions Flammarion, en 2024, livre pour lequel, en effet, vous avez reçu le prix Guizot, un grand prix qui est le prix d'histoire de l'Académie française en 2025. Donc tout récemment, et là c'est encore cette histoire que vous affectionnez, ce sont les gens, les personnes dont on ne parle pas beaucoup, et vous avez l'art, en effet, d'aller à leur rencontre, et de les rappeler en quelque sorte, de nous les faire découvrir. Et puis vous avez une autre passion aussi, c'est le cinéma. Et vous avez écrit ce livre sur l'histoire d'Autant n'emporte le vent. Le livre et le film surtout. Scarlett, c'est chez Flammarion. Et ça c'est en 2022. Voilà, souhaitez-vous ajouter quelque chose à cette présentation, François-Guillaume Laurin?
Non, très bien, je vous écoute.
Ça va comme ça?
Je vais essayer de répondre à vos questions.
Alors maintenant, je vous propose de commencer à parler de la manière dont vous écrivez ces livres, et ouais, pourquoi vous les écrivez de la sorte, avec cette approche qui vous est très propre, hein, qui est vraiment une approche personnelle. Et c'est ce que vous nous présentez dans ce recueil, ces lieux qui ont fait la France aux éditions Tempus. Alors, je voulais savoir, François-Guillaume Laurin, dans un premier temps, d'où vient cette idée, cette approche originale d'écrire l'histoire par les lieux, des lieux connus ou méconnus, des lieux où parfois il reste des traces, mais des lieux où il ne reste plus du tout.
Moi, je pense que c'est une curiosité qui est partagée pour beaucoup de gens quand on se promène en France, qui évidemment une terre, un lieu chargé d'histoire, presque à chaque coin de champ, vous pouvez en déterrer une. Ce qui me frappe, l'expérience en fait que j'ai, c'est que quand je me retrouve, je sais pas, quand je me pose la question de Marignan où je me suis rendu pour faire un chapitre, quand je vais à Verdun pour aller parler avec les maires des villages disparus, quand je découvre l'existence, par exemple, en 2011, parce qu'en fait, c'est 15 ans, en fait, de reportage et d'enquête. Quand je vais à Margival, parce que je lis quelque part qu'il y a les plus grands bunkers d'Europe qui sont là, dans l'Aisne, près du chemin des Dames, mais qui n'ont rien à voir avec la Première Guerre mondiale, mais qui sont liés à la Deuxième, et que Hitler y est venu 11 jours après le débarquement. En fait, tout de suite, c'est la même question qui se pose à moi et qui déclenche chez moi, en fait, le besoin. Vraiment, c'est vraiment presque une pulsion. Pourquoi d'abord, quand on va sur place, on le retrouve, ce lieu traversé par l'histoire, pourquoi on le retrouve dans cet état-là, dans cette condition-là? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé depuis que l'histoire l'a traversé? Si vous voulez, l'historien, bon, il peut travailler sur des sources, il peut travailler sur des fonds d'archives. D'ailleurs, pour ce livre-là aussi, j'ai mis le nez là-dedans. Mais il peut aussi se confronter à une des coordonnées, en fait. Il y a deux coordonnées dans un événement historique. Il y a le temps et il y a le lieu. Et cette confrontation, elle se fait sur place. C'est une enquête de terrain, en fait. C'est une histoire de terrain où il s'agit... non pas, bien sûr, on va rappeler l'événement tel qu'il s'est déroulé, mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est un travail mémoriel, c'est des questions mémorielles, c'est qu'est-ce qu'on a fait une fois que l'événement s'est déroulé dans cet endroit-là, comment on en a parlé, comment on l'a conservé ou pas conservé, comment on l'a transformé, on en a fait un lieu justement de mémoire. Est-ce qu'on en a fait un lieu commémoré, célébré, dans la mémoire locale ou bien dans la mémoire nationale, puisqu'il s'agit aussi souvent d'un double rapport, en fait. Il peut y avoir une mémoire locale, mais pas de mémoire nationale. C'est-à-dire que ce lieu peut être connu dans la région, sur place, dans le canton, dans le département, et puis en fait, avoir échappé à une mémoire collective. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? En fait, c'est une histoire de l'intervalle, de l'entre-deux. Qu'est-ce qu'on a, par exemple, Valmy, qu'on connaît bien sûr avec la bataille de 1792, mais avec le moulin de Valmy, qui à l'époque de la bataille est un point de repère qui va être tout de suite détruit parce qu'il ne faut pas que les Prussiens aient ce point de repère. En fait, il y a quatre moulins qui se sont construits et qui correspondent aussi à des moments, on va dire des moments hauts, des hautes eaux de la mémoire de Valmy. Mais il va y avoir aussi des basses eaux selon que vous êtes ou pas dans une mémoire qui célèbre, qui exhume, qui exalte la mémoire révolutionnaire. Il va y avoir des moments dans l'histoire de France où c'est l'inverse. Donc où Vichy va retomber, si vous voulez, dans l'oubli. C'est en fait ces hauts et bas, ces fluctuations. On va peut-être parler de Proust et cette formule qu'il y avait, les intermittences du cœur. Eh bien, il y a les intermittences de la mémoire. C'est-à-dire, en fait, ces fluctuations, ces allées et venues comme une mère, hein, qui vient avec le ressac et qui jette, qui laisse, hein, ce qu'on appelle la laisse, qui laisse des témoignages. Et puis, ces témoignages sont recouverts, sont enfouis. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que le lieu d'histoire avait une mémoire assez comparable à notre propre mémoire de personne qui parfois enfouit, parfois au contraire est obsédée par quelque chose. Donc il y a des moments peut-être de refoulement, peut-être d'oubli, et puis des moments qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire de retrouvailles. C'est-à-dire de moments où, par exemple, il y avait, j'étais venu vous en parler, de Maillet. Maillet, ce village massacré en 1944, presque à l'égal d'Oradour-sur-Glane, entre Tours et Châtellerault, et qui, parce que les habitants avaient décidé de recouvrir, de ne plus en parler, ce massacre a disparu véritablement des mémoires et n'a jamais été inscrit dans les livres d'histoire, jusqu'aux années 90, quand ce sont les propres habitants qui, dans des détails qu'on n'a pas le temps de les évoquer, mais vont l'exhumer. Et là, d'autres vont pouvoir s'y agréger et écrire une histoire. Donc, en fait, voilà, mon obsession, c'est finalement comme sur une scène de crime. Je considère l'histoire presque comme un... Non pas qu'elle est forcément... porteuse, il y a des lieux d'histoire industrielle, d'histoire artistique, d'histoire agricole dans ce livre, mais c'est comme quand même une scène de crime où il y a peut-être des indices, il y a quelque chose à reconstituer. Nous, on arrive après la bataille, on arrive après l'histoire, on arrive au présent. C'est ces allers-retours entre le présent et le passé, et cet intervalle. Encore une fois, moi je fais une histoire de l'entre-deux.
Mais vous semblez ainsi plus, être plus intéressé par ce qu'on fait de l'histoire, la mémoire, et puis aussi les mythes, plutôt que par l'histoire elle-même.
Les deux vont... Je ne peux pas faire l'économie de l'histoire elle-même, puisque c'est mon point de départ, puisque c'est ce qui va être transformé par la suite, par l'écriture, par la réécriture. On sait bien que notre histoire, France, ce n'est pas propre à notre pays. L'histoire, c'est une incessante réécriture des multiples récits qui se chevauchent, qui s'entassent, qui se contredisent, qui s'annulent, ou bien qui se répètent. Donc, je vais être obligé, bien sûr, et j'en fais jamais l'économie. C'est-à-dire, quand je vais à Marignan, en trois pages, mais je le fais toujours dans l'optique de ce qui va suivre. C'est-à-dire, par exemple, à Marignan, rappeler qu'il y a quand même, on va dire, trois protagonistes. Les Français, certaines principautés italiennes qui sont les alliés des Français, et puis les Suisses, pour voir qui ensuite de ces trois parties va prendre en charge la mémoire de Marignan. J'insiste sur Marignan parce que ça avait été comme un cas d'école, puisqu'on a l'abscisse de Marignan. Tout le monde sait que c'est 1515, mais quand moi je posais la question autour de moi, c'est où Marignan? Vous le placez où sur la carte? Exactement. Et là, il n'y avait plus personne. Et moi-même, d'ailleurs, j'aurais été incapable de le placer avec précision dans la banlieue de Milan. Et j'ai été très... Si vous voulez, l'enquête, par définition, et ça vaut pour toutes sortes d'enquêtes, hein, c'est pas propre à l'histoire, en allant sur place, en rencontrant des gens qui, eux, travaillent cette mémoire, parce que c'est une mémoire locale, ça les concerne de près, ils ont accumulé, ils ont... Eux ou d'autres, il y a des relais de mémoire qui ont fait qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé chez soi. C'est normal, ça s'est passé près de chez vous. Eh bien, ils ont accumulé un savoir qui a du mal, si vous voulez, à percuter avec une mémoire nationale. Et donc, le voyage vaut toujours le détour. Le voyage vaut toujours la rencontre parce que ces gens-là, qui sont des passeurs, et je crois que la France, il y a des milliers et des milliers de gens comme cela. Vous allez, comme dans toute enquête, trouver beaucoup de choses à glaner pour ensuite construire cette mémoire-là.
Alors, François Guillemot, on va évoquer bien sûr tous ces lieux de mémoire que vous visitez. Ils sont nombreux puisque votre ouvrage est très important. Il y a 800 pages. Ça fait combien de lieux de mémoire? Une cinquantaine, une bonne cinquantaine.
46.
Et alors, ce sont des lieux de mémoire qui touchent à tous les domaines. Hein,
domaine et toutes les époques.
Littéraire, toutes les époques, toutes les activités. Il n'y a pas que la guerre, il y a des champs de bataille, bien entendu. Vous avez parlé de Marignan, vous visitez Verdun, mais Verdun sous un aspect très particulier, ces villages
qui n'ont plus d'habitants.
Il y a aussi de l'industrie, hein, de l'industrie, quand on parle des frères Montgolfier, et c'est la naissance de l'industrie. Ce sont des industriels au départ, des papetiers, ces frères Montgolfier. Il y a des Gasville, par exemple, que vous évoquez. Il y a donc la littérature, on va parler d'Hillier Combray, et il y a la Deuxième Guerre mondiale, vous avez évoqué Margival, vous avez évoqué effectivement ce village de Maillé. Il y a aussi la vie politique avec Sermange. Qu'est-ce que Sermange, voilà, on gardera. On va garder Sermange.
Sermange. Je pense aussi à Nantes.
Oui. Oui.
En fait, avec le recul, et d'ailleurs c'était le deuxième tome, je voulais mettre plus d'histoire politique et je voulais me consacrer à des grandes villes aussi, qui ont en fait une histoire aussi complexe que celle d'un pays. C'est pour ça que je me suis consacré à Nantes, à Bordeaux et à Strasbourg, parce qu'il y avait là un retournement Nantes, ville de la Ligue, mais qui devient ville de Lady Nantes, ville de la traite négrière, mais qui devient ville du mémorial de l'esclavage et des droits de l'homme et de la tolérance. Bordeaux, trois fois capitale de la France, mais qui n'en parle pas. En fait, c'est ça aussi. En fait, vous me posiez la question de l'attrait des lieux, c'est-à-dire c'est intéressant de voir ce qui est montré, ce qui n'est pas montré, ce qui est mis en exergue par la ville ou pas. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'il choisit? Quand moi, en Bordeaux, j'y suis allé, j'étais persuadé que cette 3 fois capitale 70, 14, 40, il y aurait beaucoup de traces, de vestiges dans la ville. Or, il n'y en a quasiment pas. Et donc, ça vous fait réfléchir, évidemment, sur le rapport d'une grande ville avec le passé du pays. Ça, c'est quand même... Les rapports province-Paris sont quand même essentiels. Et là, c'est une manière très tangible de les voir, en dehors de toute idéologie. Parce que peut-être c'est aussi cela qu'on n'a pas abordé, et que je n'ai pas abordé moins dans ma réponse, c'est que si je fais ce travail depuis 15 ans, c'est que je suis exposé, de par mon métier, au point à... J'ai été exposé à une politisation croissante, extrême, et une récupération par les politiques de l'histoire. Depuis 20 ans, 25 ans, alors ça a toujours été le cas, hein. C'est pas une découverte au 19e siècle, on utilisait déjà l'histoire à des fins politiques. Mais dans une époque médiatique, il y a eu, à partir des années 2000, à partir des lois mémorielles, il y a eu beaucoup de débats, et il y a eu, pensez par exemple, moi ça m'avait sidéré en 2022, le débat Mélenchon-Zemmour, qui s'est réduit à un débat d'histoire. On avait l'impression de deux professeurs d'histoire qui débattaient. Et on sait bien que les politiques, en fait, s'emparent de l'histoire jamais impunément et jamais sans arrière-pensée. En fait, pour eux, c'est un magasin, c'est un supermarché. Ils font leurs courses pour trouver des arguments en leur faveur et en faveur de leur politique. Moi, j'en ai assez souffert, justement, de cette politisation croissante, c'est-à-dire, en fait, de cette désappropriation par des autres, des personnes qui ne sont pas des historiens. Et donc, ça m'a semblé essentiel, et j'ai trouvé, dans ces lieux, une manière tangible, parce que les lieux ne mentent pas. Je ne veux pas dire que la Terre ne ment pas, mais les lieux ne mentent pas parce que vous êtes obligés de faire leur histoire. Et là, la mémoire, elle a une histoire très tangible. On ne triche pas avec la mémoire, on ne la réécrit pas, l'histoire de la mémoire. Ça, c'est très important. Donc, vous pouvez au moins dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont évolué. Et c'est pour moi une manière de répondre à la politisation de la mémoire, de l'histoire.
Oui, mais cette mémoire évolue sous quelle influence?
Sous les influences nationales, mais il faut la décrypter. Il faut même décrypter les manipulations mémorielles.
C'est aussi une conséquence de la politique.
Mais ce n'est que de la politique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est raconter justement
la manière,
mais la décrypter, la déchiffrer, et pour comprendre pourquoi, par exemple, vous avez tel ou tel lieu. Par exemple, pourquoi les plages de Normandie, puisque c'est un chapitre que je fais en miroir, les plages de débarquement de Provence par rapport à celles de Normandie, pourquoi celles de Provence sont quasiment inexistantes et
elles
oubliées.
N'existent plus quasiment, d'ailleurs.
Et pourquoi celles de Normandie sont, au contraire, parmi les plus hauts lieux de tourisme. Ça a une explication, ça ne tombe pas du ciel et il y a toujours derrière des politiques. Moi, ce que j'essaye de faire à ma modeste échelle, c'est raconter cette utilisation de l'histoire. Mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de politique, non. Au contraire, il n'y a quasiment souvent que de la politique. Mais il faut déchiffrer et il faut aplatir.
Maintenant, pour revenir aux plages, on peut comprendre quand même que les plages de débarquement de Normandie soient beaucoup plus connues, célébrées que celles de Provence, parce que les combats ont été terribles. Et puis, il y a les sites aussi, avec ces cimetières très, très, très impressionnants. Le débarquement de Normandie, sans enlever un quelconque mérite...
Non. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut aller rien faire sur Normandie. Pas
de
tout.
Ce point de vue-là, on peut comprendre en effet que les plages de Normandie soient plus, soient plus ancrées dans l'histoire, on puisse marquer l'histoire et qu'on nous la raconte plus que les...
Bien sûr, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de raconter qui s'est intéressé, qui s'est occupé de mémorialiser exactement et comment et dans quelles conditions et en utilisant quel réseau auprès de Paris. Et pourquoi la même chose n'a pas eu lieu en Provence? Voilà.
Alors vous soulignez là, j'aurai encore plein d'autres questions à poser sur votre démarche qui est vraiment particulière et passionnante, hein, François-Guillaume Laurin, puisque ce nouveau recueil, ces lieux qui ont fait la France, hein, qui reprend les deux livres précédents, mais vous y ajoutez donc un certain nombre de chapitres. Vous vous intéressez aux traces, vous recherchez les traces pour comprendre ce qu'il reste en effet de cette histoire, et puis mettre à jour en quelque sorte la manière dont cette histoire a été racontée, la manière dont on raconte, ça a évolué dans le temps à partir de quelle influence, et vous expliquez, ce sont avant tout des influences politiques, et vous soulignez, puisque vous venez de nous le dire, qu'en effet depuis une quinzaine d'années, eh bien de plus en plus, alors pourquoi est-ce comme ça, pourquoi les politiques tiennent-ils tant que ça maintenant à s'approprier cette histoire?
Est-ce que alors, c'est pour marquer... j'apporterai une nuance, c'est que cette tendance a eu son apogée, disons, entre 2007 et 2022, mais qu'elle a connu un coup d'arrêt depuis 2022. Et pourquoi? Parce que la guerre en Ukraine a fait que, si vous voulez, alors bien sûr, la guerre en Ukraine elle-même, ce sont d'autres enjeux mémoriels très importants, on l'a vu, entre la Russie de Poutine et l'Ukraine de Zelensky. Mais ça, ce sont leurs enjeux mémoriels. Par contre, en France, on s'est bien rendu compte d'une chose, c'est que l'histoire, maintenant, elle est tellement forte, elle est tellement dure, qu'elle écrase beaucoup notre passé. Et que ces enjeux mémoriels ont reculé d'autant. Et vous avez des exemples très concrets dans une politique très mémorielle que voulait Emmanuel Macron, et qu'il a dû remballer, qu'il a dû mettre de côté, parce que ce n'est plus ça qui est intéressant, ce n'est plus ça qui préoccupe les gens, c'est ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui se passe en Israël, c'est ce qui se passe à Taïwan. Et le présent, si vous voulez, a un petit peu évidé, enlevé de son poids le passé français. Là, il y a eu un virage très important depuis 4 ans. Et moi, je me souviendrai toujours que c'était en mars 2022. Il y avait un grand programme mémoriel voulu pour les 60 ans des accords d'Évian qui avait été mis en place par Emmanuel Macron, dont il n'a fait quasiment rien. Pourquoi ? Parce que fin février, il y avait le début de la guerre en Ukraine. Il a été obligé de tout annuler. Donc on voyait bien ces télescopages entre l'histoire qui s'écrit au jour le jour et qui préoccupe aujourd'hui, qui nous préoccupe tous, et puis justement cet usage mémoriel. Et de fait, je vous ai donné l'exemple de 2022 avec Mélenchon-Zemmour, mais pour moi c'est finalement le dernier moment. Parce que depuis, je constate, à part les 80 ans de 44-45, mais on pourrait y revenir, parce qu'il y a un usage à faire, là aussi, par un président de la République, de la politique, de l'histoire, dans le cadre d'une fédération nationale. Mais ça reste, pour moi, l'exception et les panthéonisations. Mais on voit bien que c'est toujours la même chose, et on revient toujours à l'idée d'une... On va essayer de rassembler dans un peuple qui se divise et qui aime. On essaie de trouver des moments de rassemblement, d'unité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les figures panthéonisées doivent cocher des cases. Ne heurtez personne.
Je vais vous poser une question un peu, peut-être un peu indiscrète, un peu personnelle. Vous parcourez la France. Parcourir la France depuis des années à la recherche justement de ces lieux, et j'aimerais savoir d'ailleurs comment vous les choisissez, parce que vous avez évoqué Marignan, c'est un supermarché maintenant, je crois, hein, c'est et il n'y a plus de traces. Comment faites-vous d'ailleurs quand il n'y a plus de traces? Mais j'aimerais vous poser cette question, vous parcourez la France, et ne trouvez-vous pas que la France sans les dit? Et avec, vous parcourez des petites villes, il y a des grosses villes, il y a Porto, il y a Nantes, etc. Je suis allé à Nantes, pardonnez-moi cet exemple personnel, récemment, j'étais surpris par deux choses. La première chose, c'est que finalement, je crois que c'est socialiste écologique, hein, écologique, je crois, ouais. Nantes. Hein.
Ouais, Jeanne Arland.
J'étais très surpris de voir qu'il y a une statue qui était toujours en place, qui n'avait pas été déboulonnée. C'est celle de Villebois-Mareuil, qui occupe une des belles places d'ailleurs de Nantes. Il y a une place Villebois-Mareuil. Quand on connaît l'histoire de Villebois-Mareuil, ça ne cadre pas tout à fait, en effet. Et j'ai vu ça avec surprise d'ailleurs, qui fait toujours avec une belle statue d'ailleurs,
Alors représentant. Là, vous m'emmenez sur un autre domaine qui est la débaptisation et la. Et la... Oui, le déboulonnage.
Ma question était sur Nantes et puis même sur Bordeaux et sur les autres d'autres lieux. On pourrait penser à d'autres lieux. Ne trouvez-vous pas que la France s'en est dit ?
La France moche. Ça,
exactement. Avec les zones d'activité partout. Et puis moi j'étais frappé à Nantes. Hein, c'est l'état de délabrement. Mais c'est une ville magnifique, avec un centre-ville magnifique, avec des immeubles, des très beaux ensembles. C'est splendide, mais c'est dans un état de saleté, de délabrement, d'irrespect de l'urbanisme. C'est impressionnant, mais ce n'est pas qu'à Nantes. Hein. On pourrait citer encore d'autres très grandes villes dans cette situation. N'êtes-vous pas frappé par cela ?
Alors, moi, je partage votre avis, et en même temps, la France reste, par son incroyable richesse, sa diversité aussi paysagère, architecturale, quand même encore un vivier, un terroir de lieux absolument magnifiques qui ne sont pas touchés, justement, affectés par cette dégradation chronique, en effet. Par cet appauvrissement, parce que on sait bien que vous voyez d'ailleurs, moi j'ai une maison de campagne dans un petit village, dans des hameaux à 70 km de Paris. Vous pouvez voir un peu à travers les constructions, les différentes constructions, les différents états de construction des maisons, un peu c'est une carte. C'est une chronologie de l'appauvrissement de la France avec le type de bâtiment, de matériaux, le type d'architecture, et on va vers du préfabriqué. En effet, on va vers de la fabrication en série, du moche, même à l'intérieur, au centre d'un village, parce qu'il y a telle ou telle exigence, mais il n'y a plus les moyens. Et c'est une des constatations, en effet, mais ça n'empêche pas, moi, disons que je suis obsédé par autre chose. Je la constate, d'ailleurs je la décris parfois, je crois que à Illiers-Combray, disons les pourtours de la ville d'enfance de Proust, en effet, sont pas réjouissants, mais moi j'en fais une matière littéraire au sens, c'est le contraste. C'est-à-dire que quand, justement, moi qui travaille sur ce rapport, sur ce mélange, cet alliage, cette alliance entre le passé et le présent, eh bien, justement, ce télescopage, il m'intéresse. Puisque, évidemment, que si on va à Illiers-Combray, on ne va pas retrouver le Illiers-Combray de Proust en 1890. C'est utopique. Donc, on est forcément... Ou quand je vais à Varennes, parce que, là aussi, les histoires s'empilent. Et comme la France est un lieu chargé d'histoire, moi j'étais allé à Varennes pour trouver des traces de la mort de Louis XVI, du voyage de Louis XVI et l'arrestation de Louis XVI. Mais qu'est-ce qui prédomine ? Qu'est-ce qui écrase tout ? C'est la Première Guerre mondiale là-bas à Varennes. C'est la destruction quasi totale du village de Varennes. Et de fait, les vestiges mémoriels sont ceux de la Première Guerre mondiale. Donc il y a aussi cela qui fait que... différentes strates de temps se superposent, mais moi je travaille justement avec ces strates-là, donc aussi avec la strate immédiate qui est la strate moche.
Et comment faites-vous pour choisir les endroits que vous visitez et que vous racontez ? Comment faites-vous et vous cherchez-vous systématiquement des traces, et quand il n'y a pas de traces, qu'est-ce que vous faites ? Quand il n'y a personne. Quand je me souviens d'une anecdote, c'est un village du sud-ouest. Pardonnez-moi, mais c'est juste une anecdote. Vous parlez des traces, vous les décrivez dans votre livre. Vous rencontrez toujours des gens qui vont vous raconter plein de choses intéressantes, mais parfois, on constate que les gens ne savent même plus. Et je pense à un village du sud-ouest où était le maréchal Lannes, pas très loin d'Agen. Très belle région, très joli village. J'ai désespérément cherché la maison de naissance du maréchal Lannes. Personne n'a pu
Vous savez, dans le chapitre consacré à Niepce et à la maison de Niepce, où il élabore pendant une quinzaine d'années le processus de la photographie à Saint-Loup de Varennes, au sud de Chalon-sur-Saône.
Oui.
C'est pas moi, mais c'est la personne avec qui je fais le chapitre, qui est directeur d'une école de photographie, qui lui me raconte qu'il y a 25-30 ans, quand il s'intéresse, puisque c'est là qu'a été prise la plus ancienne photo qu'on connaisse, hein, le point de vue du Gras, et vous me demandez comment je choisis mes lieux, voilà un exemple. Moi, j'ai été toujours fasciné par cette plus ancienne photo qu'on connaisse. Je me dis, je veux y aller. Je veux y aller.
Il y a toujours un élément déclencheur qui vous amène dans un endroit.
Oui, ça peut être comme ça, un stimulus visuel. Aller à l'endroit où a été prise la plus ancienne photo qu'on connaisse. Et pour finir, et puis je vous répondrai après, mais pour finir sur Saint-Louis-de-Varennes, cet homme, quand il s'intéresse justement à la maison de Niépce, quand il débarque à Saint-Louis-de-Varennes, il demande à tout le monde où était la maison de Niépce. Et personne ne sait. Personne ne sait. Il y a juste la tombe de Niépce dans le cimetière. Et à partir de là, il mène son enquête. Il la trouve, il la loue, puis il la rachète, puis il en fait une maison des illustres. Il reconstitue tout le laboratoire. Mais lui aussi, il est confronté. On est confronté, en effet, parfois à cette... Alors, vous me dites, bon, voilà, c'est un exemple. Après, quand je vais à Montoire pour raconter la poignée de main entre Hitler et Pétain, je me pose une question d'emblée, sans y aller, avant même d'y aller. Je me dis, qu'est-ce que ça a dû être dur pour cette petite ville, Loir-et-Cher, de vivre avec ce poids-là? Parce que, bon, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé, c'est pas eux qui ont dit, organisons une rencontre, monsieur Hitler, monsieur Pétain, venez chez nous. Non, évidemment, il y a des raisons logistiques, stratégiques qui ont fait qu'ils se sont vus là pendant quelques heures, ils sont repartis, peut-être même qu'ils ont oublié où ils s'étaient vus, Montoire, pour eux, connaît pas. Par contre, les gens de Montoire, ils en ont pris pour des décennies. Et ça m'intéressait d'aller voir les gens, de voir ce qu'ils en avaient fait et comment ils s'en étaient sortis de cette histoire-là nationale. Ça peut être aussi, par exemple, peut-être qu'on peut aborder les lieux de réconciliation franco-allemande.
Oui, on va aborder ces lieux, bien sûr.
Moi, j'avais découvert la personnalité de Franz Stock.
Pardonnez-moi, mais avant, parce qu'effectivement, c'est la meilleure manière d'illustrer la manière dont vous travaillez, dont vous explorez ces lieux, c'est de prendre quelques exemples. Peut-être d'abord proposer aux éditeurs de Radio Courtoisie, avant que nous rentrions dans l'exemple concret de trois lieux que vous décrivez dans ce recueil, ces lieux qui ont fait la France aux éditions Tempus. Présenter pour les auditeurs un peu le panorama de tous ces lieux. Voilà.
Le panorama.
Sans rentrer dans le détail, mais voilà, ce que l'auditeur qui...
Alors, chronologiquement, on commence avec la Basilique Saint-Denis et on va jusqu'à Roissy, parce que là aussi, il m'intéressait d'aller voir le maire, les habitants qui s'étaient battus dans les années 70. Donc, il y a un village, on oublie parfois qu'il y a un village qui s'appelle Roissy en France. Qui a une histoire, une longue histoire, et qui a vu débarquer le mastodonte de l'aéroport. Et ça m'intéressait beaucoup. Et il y a même un village, un hameau, plutôt le vieux pays, qui a failli mourir et qui, aujourd'hui encore, présente un aspect qui oscille entre la vie et la mort. Et il m'intéressait de raconter l'histoire de ce combat entre un peu David et Goliath, entre ce village et cet aéroport. Et donc, parcours 20 siècles à peu près, on va aussi sur les champs cataloniques, les traces des champs cataloniques près de Troyes. Un panorama. Donc,
vous avez retrouvé l'endroit de la bataille ?
J'ai suivi, je l'ai fait avec un archéologue, je ne suis pas archéologue. Et d'ailleurs, même si mon travail, je me permets, est une sorte d'archéologie,
oui,
en fait, d'archéologie de la mémoire. Donc j'ai contacté l'archéologue qui fait foi, qui fait autorité, qui avait fait un travail très sérieux là-dessus. Oui, enfin, j'ai suivi sa thèse, mais je me suis rendu sur place, bien sûr. Le panorama, comme vous l'avez dit, il s'agissait d'aborder à la fois des lieux militaires, politiques, artistique, agricole, industriel, toutes sortes de lieux. Il s'agissait aussi peut-être d'aller voir à chaque fois s'il ne se posait pas une question mémorielle peut-être. Vous allez recevoir tout à l'heure Renal Séché, il y a un long chapitre qui est consacré à la virée de Galerne.
Oui. dont nous avions parlé lorsque voilà. vous étiez
donc,
venu
donc,
en effet.
Donc, je ne vais pas en reparler, mais
notamment
mais,
sur la ville du Mans, pardonnez-moi.
Oui.
Vous retrouvez des traces, mais alors.
C'est pas moi qui retrouve, ça a été quand même le plus grand chantier archéologique de l'INRAP pendant quelques années. Et donc, je suis allé voir la directrice du chantier qui avait conservé tous les cadavres et les ossements près de Nantes, au site de l'INRAP de du Grand Ouest. Mais c'était une des nombreuses batailles qui ont émaillé la verrerie de Galerne. Mais ce qui m'intéressait, c'était de... j'avais, en lisant, parce que je fais des lectures beaucoup en amont aussi, avant d'y aller, avant aussi de trouver les intermédiaires, les passeurs, c'était, je me rendais compte que, et du côté vendéen et du côté républicain, on en avait peu parlé, ça avait été un peu mis sous le tapis. Et évidemment, tout cela m'intéresse, l'occultation est très intéressante quand vous êtes historien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait ? Donc, même s'il y a un souvenir vendéen, et j'étais ravi de rencontrer les porte-drapeaux pour chaque département du souvenir vendéen, même s'ils sont un peu les derniers des Mohicans, ils se considèrent aussi comme tels. Voilà, il y avait une question mémorielle derrière. À chaque fois, il s'agit, à travers la virée de Galerne, finalement, vous pouvez raconter la mémoire de la guerre de Vendée.
Bonjour, si on parle de la virée de Galerne, pardonnez-moi, il y a tout un chapitre passionnant là-dessus, et puis il y a différentes traces qu'on retrouve par des fous, effectivement, du supermarché, mais aussi des habitants. Hein.
Oui.
On parlera des personnes que vous rencontrez. Est-ce que toujours vous rencontrez quelqu'un qui connaît comment faites-vous d'ailleurs pour préparer
cette
visite?
La France
et comment faites-vous pour rencontrer
ces personnes? La France est un réservoir.
Oui,
de...
mais vous y allez à l'inconnu, comment vous faites?
Non, parce que je regarde qui a écrit, j'appelle la mairie, ou j'appelle l'office du tourisme, et je leur dis, mais alors c'est qui est la personne référence pour vous? Ou bien, je vois bien par exemple. Le séminaire des Barbelés, c'était évident que ça soit Hubert Briand, c'est lui qui a, pas lui seulement, puisqu'il a reçu une visite en 1981 d'un quart de religieux allemands qui débarque avec un général français en chaise roulante et qui lui dit, il demande, bon, elle est où la fresque? Il est où notre séminaire? Et lui, il est dans ce camp militaire près de Chartres. Il croit connaître les lieux quand même. Il dit, mais vous rêvez, il n'y a jamais eu de séminaire, il n'y a jamais eu de lieu comme ça. Et bon, c'est lui qui va avec eux réexhumer. Et il va le faire vivre, il va le faire advenir. Donc, voilà, il s'imposait.
On va rentrer, oui. Donc, en fait, c'est préparé. Vous savez déjà, avez déjà pris vos rendez-vous. Quand vous
rendez-vous sur place... C'est des missions commando, en fait, que je fais.
Combien de temps vous restez sur place, en général?
Ça varie, mais... l'expérience de mon travail de journaliste fait que je peux faire ça. Si vous rencontrez les bonnes personnes, vous pouvez le faire en 24 heures.
Oui.
Oui, et en plus, moi, ce que je pratique toujours, c'est que je rentre, je prends beaucoup de notes, je rentre et j'écris tout de suite à chaud. Ça, c'est la pratique depuis 25 ans du reportage. Mais parfois, je groupais, par exemple, je me souviens d'un voyage où j'ai groupé trois chapitres dans le Nord, qui étaient assez proches géographiquement. Bouvines, j'y allais pour les 800 ans de la bataille, avec quelqu'un du souvenir napoléonien, le camp perdu de Boulogne-sur-Mer, enfin le grand camp que Napoléon a essayé de monter pour envahir l'Angleterre, et puis le camp du Drap d'Or. Voilà. Géographiquement, je crois qu'il y a 50 km entre les uns et les autres. Je me suis dit, je vais tout faire en même temps. Et là, je suis parti 4 jours. Je peux vous assurer que quand je suis rentré... J'avais la tête qui explosait, tellement on m'avait raconté d'histoires passionnantes. J'en avais des dizaines de pages.
Est-ce que vous voulez, vous rencontrez toujours des gens passionnants, des gens qui connaissent parfaitement l'histoire locale, toujours.
Toujours.
Ça, c'est une passion française.
Oui.
Oui, c'est vraiment français.
Ah, oui.
Vous êtes allé au Québec, hein. Il y a tout un chapitre consacré à Jacques Cartier et au Québec dans ce livre, hein, ce recueil, ce lieu qui ont fait la France.
Je ne dis pas que c'est une exclusivité. Non, en fait, j'ai l'impression que la France a cet ADN. À ce patrimoine-là vivant de personnes, je ne vais certainement pas dire que les Allemands ne l'ont pas ou que les Italiens... Quand je suis allé en Italie, j'ai fait le chapitre avec le curé de la paroisse où se trouve Marignano. Il était tout aussi passionnant. Et lui, il avait dans son église encore les crânes des chevaliers français qu'on avait conservés. Bon... je pense aussi que chaque pays a ses
érudits locaux.
Bien sûr. Mais en tout cas, je n'ai jamais été déçu par la France. Et je sais d'expérience qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait personne. Vous voyez, c'est très important quand vous partez. C'est-à-dire que forcément, vous allez trouver quelqu'un. Donc, si vous ne trouvez pas tout de suite, c'est que vous avez mal cherché.
Vous n'avez pas bien cherché, ouais. Ouais. Alors, juste pour revenir à ce chapitre sur la virée de Galerne, pour bien comprendre les choses, parce que c'est, vous l'abordez, bien sûr, de votre chapitre, la raison pour laquelle cette histoire est enfouie. Hein. On parle très peu de ce qui s'est passé au Mans, où pourtant de nombreux Vendéens, blessés Vendéens, ont été massacrés, d'ailleurs, sur leur couche d'hôpital. On en parle peu, parce que du côté Vendéen, ce n'est pas un épisode très glorieux, parce que ça a amené au désastre de Savenay. Et puis, du côté des Républicains, on n'en parle pas beaucoup non plus, parce que c'est quand même une histoire de massacre. Hein, on massacre des femmes, des enfants, alors, on massacre ceux qui sont de cortège.
Pour être très rapide, mais vous en parlerez avec votre invité suivant, c'est une aventure folle et inconsidérée. Mmh. Vous n'emmenez pas un peuple, parce que c'est ça,
oui.
C'est tout un peuple. Mmh. Et c'est une aventure dont on ne sait pas du tout comment on va l'amener. Le débarquement des Anglais qui est espéré, on ne sait pas s'il va avoir lieu ni où il va avoir lieu. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la désunion entre les chefs vendéens, qui va avoir aussi un rôle négatif. Les massacres sont réciproques. Il ne s'agit pas de dire voilà, l'un a massacré plus que les autres. Mmh. Du côté républicain, au-delà des massacres, il y a un élément qui est important, c'est que les élites, les autorités municipales, quand elles voyaient arriver les Vendéens, ont laissé à leur sort les populations. Se sont comportées de manière très lâche. Et ça, ça a été très important. Évidemment, ce sont les élites souvent qui écrivent l'histoire. Et donc, on a mis ça sous le boisseau. Oui. Surtout qu'en plus, il y a eu des défaites infligées par les Vendéens aux Républicains. À une armée républicaine qui, dans un second temps, était quand même... Parce qu'on a fait revenir du Rhin, des armées quand même qui étaient assez réputées, assez aguerries, et qui, dans un premier temps, ont été battues. Donc, ce n'était pas aussi militairement très glorieux.
Voilà. Nous avons deux auditeurs qui posent, évoquer Varennes, qui posent deux questions sur Varennes. Louis XVI a été identifié non pas à Varennes, mais à Sainte-Menehould.
Oui, Sainte-Menehould, bien sûr.
C'est parfaitement exact.
Oui, c'est l'arrestation.
Il a été arrêté à Varennes.
L'arrestation est
Il a été assez joué à rien, c'est effrayant cette histoire. Et puis, un autre auditeur que devient le maître de poste de Rouet, donc celui qui avait été identifié.
Alors, il a un destin, il y a eu des livres consacrés.
Qu'est-ce qu'il vient après avoir dénoncé?
Il va revenir à Paris, il va avoir un destin important. Et puis après, il va avoir toute une destinée qui est longue de... mais il va être marqué à jamais par cette histoire-là.
Marqué
parce qu'il est l'homme qui a reconnu
le roi, donc pas...
Oui. Oui. Mais ce qui est important aussi, enfin bon, ça, c'est le refus, parce qu'il y a une possibilité pour le roi de fuir à ce moment-là, à Varennes même.
Oui, c'est ce que vous racontez.
Il
ne la saisit pas, oui. Pour quelle raison, d'ailleurs, pouvez-vous le rappeler, vous l'évoquer dans votre livre?
Il y a une forme de résignation chez cet homme qui reste mystérieuse, qui fait que... et puis peut-être aussi de conscience aussi de sa charge et de son statut qui fait qu'on ne fuit pas comme un vulgaire voleur.
A-t-il craint aussi que le sang soit versé? Parce qu'il y avait les hussards français étaient
oui,
là, bon,
les hussards étaient là... Ça reste encore assez mystérieux. Après, il y a eu des erreurs commises sur le chemin.
Oui, sur le chemin, il a pris
son temps. Les bons itinéraires n'ont pas été pris.
C'est comme quoi la petite histoire fait la grande histoire.
C'est souvent des questions de carrefour.
C'est,
hein.
c'est ça.
Des questions de, de décision quand on prend à droite ou à gauche. Hein.
Oui. François Guimelaurin, il faut faire une petite pause pour écouter un message de la radio. Quelques secondes de Jean-Philippe Rameau, le rappel des oiseaux. Et puis nous rentrons donc dans cette deuxième partie d'émission. Nous prenons quelques exemples justement d'histoires telles que vous les racontez dans ces chapitres des lieux qui ont fait la France, que vous publiez aux éditions Tempus. Et nous commençons par les lieux de réconciliation franco-allemande. Vous avez tenu à aborder ce thème à travers justement le séminaire des Barbelés. Et l'exemple extraordinaire de Franz Stock.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en cette première partie d'émission François-Guillaume Lorrain pour la publication aux éditions Tempus de ce livre recueil, ces lieux qui ont fait la France. Il y a plus de 800 pages, une cinquantaine justement de ces lieux que François-Guillaume Lorrain aime bien décrire pour y raconter l'histoire, retrouver les traces, retrouver aussi les habitants qui connaissent cette histoire et raconter la manière dont cette histoire a évolué, la manière dont on la raconte a évolué dans le temps. C'est tout ce qu'il nous présente à travers donc des lieux qui sont soit des lieux d'histoire militaire, des batailles, soit des lieux qui touchent à l'agriculture, à l'industrie. François-Guillaume Lorrain a évoqué Nipché, par exemple. Il évoque aussi l'histoire des frères Montgolfier à Nonay. C'est typique d'une histoire industrielle. Nous avons discuté, il nous a présenté lors de cette première partie de discussion la manière dont il bâtissait justement cette histoire, dont il construisait cette histoire telle qu'il nous la présente donc dans ce recueil. Il a commencé déjà à donner un certain nombre d'exemples en évoquant Varennes et puis d'autres lieux comme Margival par exemple. Alors, un auditeur justement pose une question sur Margival. Est-ce que l'invité pourrait développer Margival?
Mais si on développe Margival, on n'aura plus le temps pour ces manières de barbeler.
Un peu.
Mais c'était le QG de... du front ouest des Allemands à partir de 42, à partir du moment où du raid sur Dieppe, ils ont compris qu'il y aurait un débarquement à l'ouest, donc ils ont choisi près de Laon, sur des raisons stratégiques et logistiques sur lesquelles je passe, mais le lieu, ils ont fait vider 7 ou 8 villages de leurs habitants, et ils ont construit une dizaine de bunkers sur plusieurs kilomètres carrés, très très modernes, ultra modernes, pour avoir des communications dans l'Europe entière. Et ce lieu a été utilisé par Hitler le 17 juin 1944. Il a convoqué Rommel et von Rundstedt, qui, donc 11 jours après le débarquement. Il y a passé 24 heures. Et ce qui était aussi intéressant, moi j'ai travaillé ce chapitre, j'ai fait avec justement l'association qui a pris en main ce lieu, qui avait été repris après 1944-1945, parce qu'il était extraordinairement moderne, le plus grand bunker d'Europe, par l'OTAN, par les Américains. C'était un des deux centres d'entraînement de l'OTAN, quand il y avait la France dans le commandement intégré. Et puis après 66, quand la France s'en retire, c'est l'armée française qui réoccupe les lieux jusqu'au plan 2000 de l'armée. Voilà. Et là, l'armée se retire. Et il avait été l'objet de... Vous imaginez, on est en pleine forêt. Hein, et de beaucoup de dégradations, de pillages. Et pour mettre le holà, cette association s'est créée, s'en est saisie. Et donc fait visiter ce lieu.
François-Guy Laurent, je propose que nous parlions du séminaire des Barbelés de Franz Stock. Dans votre livre, il y a un chapitre, effectivement, deux chapitres, hein, qui sont consacrés justement aux traces de la réconciliation franco-allemande, dont ce séminaire des Barbelés, avec un très très bel hommage que vous faites à l'abbé Stock. Je propose que nous évoquions ce chapitre.
Je voulais faire ce chapitre parce que on a été élevé dans l'idée que, évidemment, il y a le traité de l'Élysée en 63. Entre De Gaulle et Adenauer, on a été marqué par la poignée de main Kohl de Mitterrand à Douaumont en 84. Mais très tôt, dès 45, dès la fin de la guerre, même avant, dès 43-44, on pense à l'après-guerre. Comment réconcilier nos deux peuples après ce qui s'est passé? Et c'est beaucoup dans les milieux religieux que se pose la question. On s'interroge. Il y a ce mouvement, par exemple, aussi qui s'appelle Pax Christi, hein, qui vient, c'est très intéressant, moi qui ai écrit un livre sur les justes, qui vient de Saliège, qui vient de Théas, donc ceux qui ont diffusé les grandes lettres pastorales avant la grande rave dans la zone libre, qui, pourtant, donc, ont dénoncé les persécutions des juifs par les Allemands, mais qui vont tout de suite se dire, mais comment réconcilier les peuples français-allemands, les croyants français et les croyants allemands? Et on songe aussi à ne pas répéter les erreurs de la première guerre et de l'après-première guerre, c'est-à-dire écraser finalement, humilier l'adversaire. Et ce naît en fait dans l'esprit de plusieurs, soit de religieux, soit d'aumôniers, mais aussi de l'armée, l'idée d'un séminaire pour tous ces aumôniers qui ont été faits prisonniers, hein, qui ont été les aumôniers de la Wehrmacht, et qui sont pour l'instant souvent dans les camps en Afrique du Nord. En fait, c'est la suite des combats en Afrique du Nord. Et puis on en fait prisonniers au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que on se dit, en 1945, il n'y a plus de parti politique en Allemagne. C'est fini, il n'y a plus rien, puisqu'il y a eu le parti nazi. Qui va se charger de l'éducation des consciences, des esprits? Qui va pouvoir extirper en fait ce qu'on appelle à l'époque la peste brune, hein, la peste nazie de ces esprits-là? On mise beaucoup sur les religieux. Va naître l'idée, alors, ils sont prisonniers, donc on va les mettre dans un camp de prisonniers régulier, mais à l'intérieur, dans un lieu séparé, donc ça va être un camp dans le camp, et on se pose la question, qui pour animer, diriger ce camp-là. Parce qu'on ne veut pas être dans la situation de celui qui donne la leçon, qui fait la leçon, et qui dit, voilà, vous êtes les méchants, les mauvais, on va vous expliquer ce que c'est que le bien et ce que c'est que la démocratie. Donc, on prend le pari que ces cours d'éducation, ces cours de théologie, ces messes vont être dites par des prêtres allemands, adressés à des Allemands. C'est très important parce que, et qui sont aussi à l'origine de cette initiative, il y a deux personnes que je voudrais nommer. C'est Edmond Michelet, personnage qu'on connaît, hein, grand résistant, déporté à Dachau, premier ministre des anciens combattants en 1944-1945, et son adjoint qu'il charge de s'occuper des camps de prisonniers, Joseph Rovan, qui va devenir beaucoup plus tard le conseiller de Jacques Chirac, qui est un grand historien, mais qui à l'époque n'a que 25 ans, et qui a lui aussi qui est juif, qui est un juif allemand, mais qui est venu avant la guerre en France, donc qui a cette double identité franco-allemande, et qui a été, avec Michelet à Dachau, déporté. Et il écrit un texte très important dans la revue Esprit, dès 1945, qui s'appelle « L'Allemagne de nos mérites ». Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Il ne s'agit pas d'humilier l'adversaire, parce que chaque fois qu'on humilie l'adversaire, en fait, c'est notre dignité de l'homme qui est bafouée, mais qui est bafouée aussi en nous. » Et comme Michelet, comme tous ces gens-là, ils sont animés par un même esprit qui est le suivant. Il ne s'agit pas d'essentialiser en fait l'ennemi, de dire « vous êtes allemand, donc vous êtes mauvais ». Non, il s'agit de considérer, ce qui est un effort intellectuel évidemment, un effort existentiel très, très dur, surtout pour des hommes qui sortent quand même des camps de déportation, de les considérer comme des hommes, comme les autres. Et
alors
de
que
parier.
L'état d'esprit était plutôt à la vengeance. Hein.
Bien sûr, la vengeance.
Les prisonniers allemands étaient très maltraités.
Les prisonniers allemands ont été très maltraités, à tel point que les Américains ont dû les récupérer parce qu'il y avait un taux de mortalité trop élevé dans les camps de prisonniers et dans les tâches qu'on leur donnait. Donc, il ne s'agit pas de dire que ça a été l'attitude générale. Mais là, en l'occurrence, c'est créé un lieu au Coudray, dans la banlieue de Chartres, dans le camp militaire de Coudray, avec à leur tête l'abbé Franz Stock, c'est depuis 1933-34, il est l'aumônier catholique allemand à Paris. C'est quelqu'un qui a participé au mouvement de rencontres catholiques franco-allemands de l'entre-deux-guerres, avec Marc Sarnier, avec le Signon, avec les rencontres qui s'appelaient les rencontres de Bierville. Eh bien, il s'agit en fait de reprendre cela. Mais avant, lui va avoir à peu près 1000, c'est considérable, 1000 aumôniers qu'il va former dans un hangar, dans un entrepôt au départ, et il va y avoir une fresque avec cet enseignement et des cours réguliers, avec aussi des distractions.
C'est lui qui l'a peinte, la fresque.
Oui, c'est
lui
qui
l'auteur, parce qu'il est peintre aussi.
Oui, aussi, il est peintre, il connaît très bien Pont-Aven. Oui. Il adore la Bretagne.
Il a écrit là-bas.
Il a écrit.
Ça vaut quoi d'ailleurs ce livre qu'il a écrit sur ses souvenirs français, ses voyages en France? Il était amoureux de la France. Hein.
C'est un amoureux de la France. De toute façon, c'est un de mes héros, donc je ne suis pas très objectif. Je recommande aussi la lecture de son journal, parce que il a tenu un journal terrible, puisque c'est aussi lui, comme aumônier allemand, qui va pendant toute la guerre. Ça, c'est très important, parce qu'il sort de cela en 1945, il a vécu pendant 45 ans.
Il faut que vous rentriez, pardonnez-moi, François Guillaume-Laurent, je reprends ma question. Que vaut ce livre qu'il écrit sur la Bretagne, d'une part, avant la guerre, bien avant la guerre, et d'autre part, effectivement, je crois que ce qui vous intrigue, ce qui vous amène à vous intéresser à Franz Stock, c'est que vous êtes surpris à Suresnes, au Mont Valérien, cette place...
L'esplanade,
où ont été fusillés, donc un nom important de Français, s'appelle Franz Stock. Je crois que c'est ça qui attire votre attention.
Ben oui, parce que au Mont-Valérien, c'est lui qui, à chaque exécution de résistants, allait assister, qu'il soit juif, catholique, communiste, athée,
c'est
gens-là
qui les accompagnent,
qui allaient assister à leur enterrement. C'est lui qu'on appelait en pleine nuit pour dire, les Allemands l'appelaient, venez. Mais il connaissait souvent ces résistants.
C'est parce qu'il était aumônier à Fresnes ?
Alors, il est aumônier à Fresnes, mais il va aussi à la santé, il va partout. Et il connaît, il a, par exemple, s'est entretenu pendant plusieurs mois avec Destiendorf. Il a eu des dialogues chrétiens avec Destiendorf, mais il a vu tout le monde, il parle et il fait passer des messages aussi.
Il s'attache aussi à améliorer le sort des prisonniers.
En fait, il a toute une... Après avoir surmonté la méfiance, parce qu'il porte l'uniforme allemand.
Oui.
Donc évidemment, il y a forcément méfiance quand les prisonniers le voient arriver dans leur cellule, mais s'engage un dialogue, s'engage une relation de confiance, qui fait qu'il fait passer des messages pour les familles. Et c'est lui qui va souvent, après l'exécution auquel il assiste, aller dans les familles pour raconter les derniers moments, pour raconter les derniers messages, pour porter les derniers messages. Vous imaginez cette vie qu'il mène pendant 5 ans, qu'il va le tuer d'ailleurs, puisqu'il va mourir en 48, très jeune, mais il va, issu Lui aussi, il fait prisonnier en 44. Mais issu de cette expérience, il va avoir ces deux années qui sont des années de transmission extrêmement enrichissantes, où il va finalement former les futurs évêques, les futurs prêtres de l'Allemagne.
Alors, juste avant d'arriver à cette période, juste un mot quand même sur son rôle à la libération de Paris, parce qu'il s'est comporté héroïquement. Il aurait pu partir. Il aurait pu partir, il a préféré rester.
Il a soigné.
Des soldats allemands qui sont
à la Pitié Salpêtrière. C'est là qu'il va être arrêté.
Et il va les sauver parce que il connaissait le chef résistant et les résistants voulaient exécuter les soldats allemands.
Exactement.
Et ce n'est pas aussi. On se rend compte que.
Alors, au séminaire, il y a un personnage dont il faut parler qui est quand même qui va devenir essentiel puisqu'il va devenir pape. C'est Roncalli.
Oui.
Qui à ce moment-là énonce en France et qui va comprendre l'esprit assez révolutionnaire et assez transgressif de ce lieu. Et il va aider financièrement, économiquement, parce qu'il n'y a rien. Vous imaginez la France de 45. Pourquoi est-ce qu'on nourrirait 1000 Allemands? Pourquoi on consacrerait de l'argent? Et d'ailleurs, ils vont avoir du mal à trouver les lieux, parce qu'au départ, ça doit être à Orléans. Mmh. C'est trop dans la ville, c'est dans la caserne, c'est trop dans la population. Et la population, juste envie peut-être... juste envie qui débarrasse le plancher. Voilà. Et donc, pendant deux ans, il va y avoir cette entreprise qui va être renouvelée parce qu'elle est un succès. Et donc, ces hommes vont former ensuite, vont être même ordonnés sur place par centaines. Ils vont, et là, on va très, très, très loin, parce qu'ils vont récupérer à un moment des jeunes de la Waffen-SS, faits prisonniers par les Français. Ce ne sont pas des prêtres, mais ils vont se retrouver là. Et on va leur donner des cours et on va leur faire passer le baccalauréat, l'abitur, hein, l'abitur allemand. Et c'est là que le premier abitur, avant même l'Allemagne, parce qu'il y a l'Allemagne, il n'y a plus rien quasiment, et donc a été décerné. Et il y a aussi des échanges, des contrats avec des universités allemandes qui sont signés. Donc il y a vraiment là une coopération qui se met en place. On est en 45-46 et je voudrais insister sur le fait que cette coopération, ce n'est pas le seul exemple. Quand vous regardez, c'est souvent la société civile en fait qui agit. Et c'est souvent des anciens déportés. Ça va être des maires, des villages et des villes de l'est de la France qui vont se regrouper avec des villages, des villes de l'Allemagne de l'Ouest. Ça va être aussi... religieusement encore, des rencontres, des processions, des croix qui vont être plantées. Et l'exemple du Coudray, donc du séminaire des Barbelés, étant une réussite, il va être redupliqué aussitôt pour les officiers allemands. Et c'est à Saint-Denis. Il va être fait aussi par les protestants. Ça, c'est dans le sud-est de la France. Donc, c'est une expérience qui va être renouvelée. Et avec la même liberté laissée aux Allemands, c'est-à-dire on leur fait confiance, on mise sur leur conscience et non pas sur leur on mise sur leur humanité en fait et sur l'espoir que quelque chose peut se renouer entre les deux pays.
On rencontre de très belles figures dans ce chapitre que vous consacrez donc au séminaire des Barbelés au Coudray.
Et ce lieu donc a été redécouvert.
Alors nous allons en parler effectivement parce que vous attachez l'importance aux traces. Vous allez nous parler des traces qu'on peut voir parce que je pense que déjà dans de courtoisies auront envie, je pense, après votre
prenez le train pour Chartres.
Au Coudray. Mais avant d'aborder cette question, je voulais préciser comme on rencontre dans ce chapitre particulièrement de très belles figures. Il y a celle aussi de Monseigneur Rodin que l'on croise. Alors vous expliquez que l'abbé Stock est mort à la tâche, il avait effectivement le cœur fragile, il est mort en 48, il est mort au séminaire des Barbelés.
Le séminaire était fermé en 47, il est venu mourir à Paris dans sa mission rue Laumont.
Il est enterré à côté de Chartres, hein, dans une
Par
église,
contre, oui,
juste
revanche.
À côté de Chartres. Oui. Et alors, la question aussi que je voulais vous poser, c'est parce que vous parlez de Monseigneur Roncalli, qui était le nonce. Jean-Paul II, je crois, le mentionne aussi. Hein, vous le racontez dans ce chapitre-là, en 1981, Jean-Paul II mentionne l'abbé Stock parmi d'autres saints allemands. Est-ce qu'il y a une demande de béatification en cours pour l'abbé Stock?
Oui, mais pour l'instant, elle est en cours.
Et pourquoi est-ce si long?
Je ne suis pas dans le secret sacro-saint. Mais Helmut Kohl est venu au Coudray.
Ah oui, il est venu.
Ah oui. Par contre, aucun président français n'est venu en exercice.
Alors que peut-on voir au Coudray?
Alors, on voudrait maintenant Hubert Briand, dont je parlais tout à l'heure, Hubert Briand, qui était capitaine dans ce camp, voit débarquer en 81 un quart d'anciens séminaristes qui sont devenus des prêtres, des évêques. Il voit débarquer aussi, il pousse dans la chaise roulante l'ancien général français qui commandait ce camp. Et ils veulent voir leur ancienne chapelle avec les fresques. Et ils lui désignent, tout de suite, ils reconnaissent les lieux, ils disent, c'était à gauche, là. Et l'autre lui dit, non, là, il y a des matériels militaires, il y a des camions, il n'y a rien. Et il pousse tout ça et il gratte un petit peu le mur. Et c'est comme dans une fresque de romaine, apparaissent les trois saints qui avaient été peints par Franz Stock. Et c'est le début d'une résurrection, on va dire, d'un lieu que Hubert Briand, fasciné par cette rencontre et par cet oubli en même temps, va faire revivre au fur et à mesure, petit à petit, difficilement, de manière ponctuelle, épisodique. Mais il a, avant sa mort, parce qu'il est mort depuis notre rencontre, mais il a organisé une exposition permanente avec des panneaux d'explication qui racontent toute l'histoire du lieu, même avant 1945.
C'est un lieu qui est préservé maintenant.
Oui, qui est balisé.
On parle des petits, entre guillemets.
Quand vous allez à l'office du tourisme de Chartres, vous pouvez, il est mentionné maintenant.
Souhaitez-vous rajouter quelque chose sur cette...
Non, simplement qu'il y a une très bonne, si vous y allez, une très bonne spécialité de pâtisserie de Chartres qui s'appelle...
De Chartres, oui.
Chartrenzer, qui veut dire en allemand, donc je ne sais pas comment on dit mais exactement, mais celui de Chartres. Mmh. Voilà.
Et ce n'est pas loin, d'ailleurs, c'est sur la route, il y a Illiers-Combray. Les auditeurs peuvent, après avoir lu votre chapitre consacré, une
vingtaine de kilomètres après.
Ce n'est pas loin.
Et quand vous passez, avant, il y a la stèle à Jean Moulin, là où on a essayé, quand il était préfet en 40, à Chartres, mais à 15 kilomètres, à la Teille, quand il a essayé de se suicider. Parce que les Allemands voulaient lui faire signer un rapport de mission de massacre qu'on voulait imputer à des soldats noirs français, qu'il a refusé. C'est là. Donc il y a un monument qui est entre le Coudray donc et Illiers-Combray.
J'ai trouvé aussi ce chapitre très intéressant sur Proust. Vous posez cette question, nous n'allons pas en parler parce qu'il nous reste que 15 minutes, on ne va pas en parler plus que cela. Il faut évoquer ce chapitre passionnant aussi sur le vol de l'aigle et puis la salle du serment du jeu de paume à Versailles. Illiers-Combray, c'était la ville de départ et c'est devenu Illiers-Combray. Vous évoquez d'ailleurs sous ces changements de nom, et vous posez cette question très intéressante, vous y répondez d'ailleurs dans ce chapitre, mais ce qui est encore plus fort, c'est que vous nous donnez envie de lire Proust, et avec cette réflexion étonnante d'ailleurs, vous dites, Illiers-Combray, personne n'a lu Proust, mais tout le monde relit Proust, personne n'a lu La Recherche, mais tout le monde relit La Recherche d'ailleurs, c'est une question surprenante, enfin vous l'abordez, j'encourage les auditeurs aussi à lire ce chapitre, parce que vous posez cette question intéressante, vous dites, mais finalement, qu'est-ce que Proust a fait pour Illiers, voyez, et qu'est-ce qu'Illiers a fait pour Combray, en quelque sorte, puisque dans La Recherche du temps perdu, Illiers devient Combray.
Je vais vous répondre en une chose, c'est-à-dire que c'est le début de La Recherche, c'est la fameuse épisode de la Madeleine.
Oui.
Disons que en trempant sa Madeleine dans une tasse de thé, les souvenirs d'Illiers, de l'enfant de Proust, qui n'y retournait pas parce qu'il était devenu asthmatique, ressurgissent et il en fait Combray. Voilà. Mais du lieu à la quintessence littéraire, il y a un monde qui est le talent de Proust. Voilà. Et donc, il ne faut pas y aller en pensant retrouver les phrases... asthmatique de La Recherche, voilà. Mais en même temps, on peut y trouver, voilà. On peut y glaner quelques signes, quelques traces, tout de même si le balisage n'est pas, pas, hein, y a pas de balisage, voilà, laisse parfois à désirer.
Il y a deux, trois souvenirs très probants. Il y a cette église qui est très belle, d'ailleurs. L'intérieur est très haut. Il y a la maison, en effet, de Tante Léonie.
C'est vrai que
le reste
Léonie,
n'est pas balisé.
Oui, oui.
Le reste n'est pas balisé, mais là encore, vous accordez beaucoup d'importance aux rencontres dans ce chapitre. Alors, il nous reste à peu près 10 grosses minutes à passer en votre compagnie. François-Guillaume Lourin, pour évoquer deux chapitres. Alors, vous allez être obligé, bien sûr, de les évoquer rapidement. Deux chapitres très intéressants, dont un qui est inédit. Ou les deux sont
les
peut-être
deux,
unis d'ailleurs,
les deux,
oui. Pardonnez-moi, sont inédits, vous les ajoutez. Donc dans ce livre, ces lieux qui ont fait la France que vous publiez aux éditions Tempus, il s'agit d'abord de Notre vol de l'aigle, c'est la fameuse route Napoléon, et puis la salle du jeu de paume à Versailles.
Bon, donc c'est évidemment le trajet suivi par Napoléon venu de l'île d'Elbe, débarquant à Golfe Juan et remontant jusqu'à Grenoble pour arriver très vite aux Tuileries. Ce qui m'intéressait, c'était en fait, bien sûr, et là, on passera sur toutes les rencontres avec les maires de différents villages, de Grasse à Sisteron, mais des plus petits villages encore. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment avait surgi ce que j'appelle, moi, les noces du tourisme et de la mémoire historique. C'est-à-dire que, en fait, cette route, on n'en parle quasiment pas, sinon littérairement. Il y a un mythe littéraire, c'est-à-dire que Chateaubriand y va, Hugo y va, ils ne vont pas les 300 km, ils vont plutôt au lieu de débarquement, c'est-à-dire qu'ils vont à Golfe-Juan, à Grasse éventuellement, à Cannes, puis ils s'arrêtent là. Mais ils vont, ils évoquent en fait cette odyssée, évidemment. Parce qu'il y a déjà un tourisme napoléonien très fort qui commence à la chute de Napoléon. On veut aller là où a été l'empereur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord un abbé. On retombe sur un abbé près de Grasse, dans un petit village, qui entend parler, il est nommé là, qui entend parler de cette histoire-là, qui la connaissait mal, et qui se dit qu'il y a quelque chose à faire. On est en 1913, juste avant la guerre. Peut-être un réseau, un parcours. Alors, il faut savoir que fin du 19e siècle, il y a une association qui se crée, qu'on connaît tous, qui est Touring Club de France. Alors, maintenant, Touring Club Automobile de France. À l'époque, il n'y a pas l'automobile vraiment. Et qui se charge, en fait, de mettre en valeur les paysages de France, la France. On est dans une sorte de patriotisme patrimonial après la défaite contre la Prusse. Enfin, découvrons, redécouvrons notre pays. Alors eux, c'est plutôt le vélo à l'époque. Donc on le redécouvre, mais au fur et à mesure, évidemment, au début du XXe siècle, c'est la voiture qui s'impose. Et naissent les premières routes touristique. La première, ça va être l'Estérel. Donc, c'est les beaux paysages. C'est aussi lié, on est à une lié à une modernité, parce que là, l'automobile, hein, c'est quand même l'emblème de la modernité. Il va y avoir la grande route des Alpes, très importante, qui va se créer entre Nice, qui contrôle le tourisme sur la Riviera à ce moment-là, et puis Évian, qui a il y a une lutte qui pourrait être le point d'arrivée avec Thonon, mais c'est Évian qui l'emporte parce qu'il y a beaucoup d'hôtels, il y a une grande hôtellerie. Et donc, et c'est là, cette route, c'est eux qui vont mettre en place les grands cols qu'on connaît aujourd'hui, et les tables d'orientation, et les panneaux de signalisation. On leur doit énormément dans la France entière. Et, bon, l'abbé, 1913, tout ça, évidemment, effacé, écrasé par la guerre. Mais après, la Première Guerre mondiale, ces grandes associations, ces grands mouvements qui lient mémoire patrimoniale, historique et tourisme vont reprendre la main. Les châteaux de la Loire naissent à ce moment-là. Le tourisme avec la demeure historique qui naît en 1924 et qui met en place avec quelques personnalités fortes ce circuit-là. Eh bien, ça va être pareil pour la route Napoléon qui naît vraiment cette association de mairies, en fait, de villes, de villages, traversées en 1932. Et alors, il y a cette route. Moi, je ne sais pas si... dans mon enfance, mon grand-père qui l'avait prise, il disait, oh là là, sur la route Napoléon, on s'y tue. Parce qu'on y meurt. Parce qu'en fait, elle est dangereuse par moment. Elle était dangereuse, lui, dans son... Mais en 69, au moment du centenaire, bicentenaire de la naissance, il y a une nouvelle association vraiment qui se crée entre les mères, très, 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 très dynamique, et qui va d'abord refaire complètement la route, plus la baliser, la jalonner de quelques panneaux, et c'est cette route aujourd'hui qu'on peut emprunter.
Vous racontez en effet un certain nombre de rencontres
avec les maires. En
fait. Voilà, les rencontres avec les maires, les,
et des historiens,
les traces,
parfois,
parce qu'il y a des traces avec des moments très, très savoureux. J'ai retenu de ce chapitre, d'ailleurs, vous évoquez bien sûr la Fraye, hein, un moment très, très romanesque.
Alors, est-ce que ça s'est passé aujourd'hui, maintenant, il y a un musée tout récent, qui n'a qu'un an, qui s'est ouvert, le musée de la rencontre, au-dessus de Grenoble, sur la plaine, sur le plateau, pardon, où là... Selon le récit, la légende napoléonienne, Napoléon aurait offert sa poitrine puisque il va très vite parce qu'il veut pas avoir.
On est dans le mythe.
Non, moi j'en ai discuté avec Thierry Lenz, directeur de la fondation, grand historien,
bien
avec
sûr,
Charles Éloi Vial.
Patron d'émission de Courtoisie.
Voilà. mais bon, la phrase n'est pas apocryphe. Et mais
est-il vrai que les fusils étaient déchargés?
Voilà, on dit que.
Mais c'est vrai ou pas? On ne sait pas.
La vérification. Mais en tout cas, c'est la première rencontre. Parce qu'en fait, il n'y a quasiment aucun combat jusque-là, sinon des échauffourées avant Sisteron. Mais sinon, là, c'est vraiment le moment clé où il pourrait y avoir. Et il choisit cet itinéraire parce qu'il a été conseillé par un médecin qui est venu le voir à l'île d'Elbe. Il veut éviter le couloir rhodanien qui est assez royaliste.
Et bon, c'est pour ça qu'il
traverse. Il ne peut pas aller à l'est, il y a trop de cols. Et donc, il y a cet itinéraire bis, mais il faut aller très vite, il faut prendre de vitesse. C'est toujours l'art de la surprise qui a fait sa force sur le champ de bataille, qui est là, qui l'utilise d'une autre manière.
Alors, cette route napoléonienne, vous n'y avez pas passé 24 heures, j'ai même mis plus de temps, parce que
elle est assez longue. En voiture, 3 jours.
Et y a-t-il un endroit qui vous a particulièrement ému, frappé dans cette route napoléonienne que vous voudriez signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie?
Je crois que la Fraye est vraiment
c'est impressionnant.
Parce que le paysage, parce qu'on dit aussi que les montagnes au-dessus sont sculptées avec un profil d'aigle. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment une atmosphère là-bas.
François-Guillaume Laurin, nous n'évoquerons pas ce soir le musée, la salle du musée du jeu de paume.
Pardonnez-moi, la pauvre qui a tout perdu déjà
vous pouvez très bien revenir.
Face au château de Versailles.
Je vous lance une invitation si vous souhaitez effectivement revenir.
Parce qu'on y parle de peinture. Ça a été un atelier de peinture,
oui,
vous vous rendez compte?
Oui, bien sûr.
C'est quand même là qu'a été fait.
Il y a eu Gros,
les pestiférés de Jaffa. Ça a été là que la Smala, qui est quand même le plus grand tableau du 19e siècle.
Il y a beaucoup de choses à dire, mais si vous voulez, moi je vous propose de revenir pour que vous évoquiez le jeu de paume.
Faire une heure et demie sur la salle du jeu de paume.
Je vous propose de revenir, je vous lance officiellement l'invitation. Mais pour terminer cette discussion autour de votre livre, François-Guillaume Laurin, ces lieux qui ont fait la France aux éditions Tempus, vous nous proposez une cinquantaine de lieux. Lequel vous touche le plus?
Celui que je n'ai pas encore écrit, celui que je n'ai pas encore visité, celui qui me touche le plus, oui, que j'évoque, mais comme ça, mais que je ne développe pas, on est toujours lié à sa ville natale. Moi, ma ville natale, c'est Saint-Cloud, c'est pas loin d'ici.
Oui.
Et je crois que quand même, je l'écris parce que je suis de Saint-Cloud. Et Saint-Cloud, c'est le lieu où le château, qui a été le théâtre de tant de décisions et d'événements, du 18 Brumaire, aux ordonnances de 1830, à la déclaration de guerre de 1870, et j'en passe, et l'assassinat d'Henri III, eh bien, ce château, il n'en reste quasiment rien. Donc, je suis né dans des ruines et dans des vestiges.
Ça nous vaudra, j'espère, un ouvrage de votre part sur Saint-Cloud. Merci beaucoup à vous, François-Guillaume Laurin. Les auditeurs peuvent vous retrouver dans ces lieux qui ont fait la France aux éditions Tempus. Merci.
Merci
à très bientôt.
Coup.